Ça jase en studio, on a bien des affaires à se dire d'ici l'heure de 10h.
Ben, c'est parce qu'on a trop d'invités le fun à matin.
Hey, aujourd'hui,
avec
c'est comme un party piscine. Avec des
discussions incroyables, t'sais, l'hyperphagie a fait réagir. En passant, bravo, j'ai écrit personnellement à tous les auditeurs, auditrices qui nous ont écrit
des
pour dire
histoires.
Hey, moi je suis frais d'hyperphagie, je viens de perdre 55 livres. Hey, moi je viens de commencer à consulter un nutritionniste, ça me fait du bien. Hey, moi, félicitations de d'oser faire tous ces efforts.
Il y en a qui reprennent les termes de notre chroniqueur planificateur financier, Alex Leblon. C'est simple, mais c'est pas facile. La recette est simple, mais difficile à appliquer quand même. On a en studio Charles Lehoulier. Vous l'avez entendu, je vais dire, vendredi passé. Il est venu nous faire une toune directement à sa grande allée. C'est un autre sujet qui risque de vous faire réagir. Vous n'hésitez pas, twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM ou le 88-971-101. Charles, bon matin.
Salut.
Tu viens nous jaser. Il faut dire à la base que Charles, en passant, est sexologue, intervenant en dépendance aussi. Puis notre formule pour les prochaines semaines, parce que Charles va être un collaborateur d'été, c'est de faire une chronique sur un sujet qui vous intéresse ou qu'on vous propose, puis d'enchaîner avec une toune. Parce que Charles est chansonnier aussi. Tu nous as prouvé tes talents vendredi passé.
Et malgré tout le stress, je l'ai prouvé.
Oui, t'as bien fait ça en plus devant le public. Le sujet ce matin, c'est le postpartum masculin, qui est peut-être un sujet dont on ne parle pas assez ou qui est peu connu. Il y en a qui vont dire, ben là, postpartum, il faut que tu ailles porter l'enfant,
ouais, mais là,
c'est peut-être pas le bon terme.
Un sujet où tu es rempli de préjugés, Audrey Pinchot.
Ah, honnêtement, oui, mais j'ai plein de questions finalement parce que pour moi, je veux dire, la dépression postnatale, si je peux l'appeler comme ça, est probablement quelque chose qui est connu chez l'homme, dont on ne parle pas assez. Il y a un accompagnement, évidemment, pour la femme quand on parle d'accouchement puis de grossesse parce que Christy, c'est elle qui le porte. Mais c'est vrai que le père a un rôle à jouer, puis c'est sûr qu'il y a des impacts sur la vie du père aussi. Fait que je suis juste remplie de questions. Préjugé est un grand mot, mais oui, sur le terme postpartum,
questions, doutes, réflexions.
Oui, réflexion, effectivement, puis c'est un peu ce qu'on va faire dans les prochaines semaines ensemble. J'ai le goût de te demander, par exemple, avant, parce que tu as écrit un article, un texte carrément sur ce sujet-là, pourquoi le sujet t'intéressait?
Moi, en fait, à la naissance de mon premier garçon, j'ai... C'est de l'autodiagnostic. Je ne suis pas un médecin ni un psychiatre. Je suis juste un sexologue qui avait du temps à ce moment-là. Ben, je n'avais pas une grosse clientèle en sortant de l'école. Puis j'ai vraiment eu une espèce de drôle de feeling quand mon garçon est né. Fait que là, avec le temps, le moment passé avec, je me suis mis juste à lire, chercher des articles, me questionner si ça pouvait être une espèce de sensation de postpartum. Et je suis tombé sur des articles qui mentionnaient beaucoup le postpartum masculin, cette espèce d'état-là qui vient avec le fait que tu es papa. Mais tu te sens pas tout à ta place. Il y a toute cette espèce de distance-là qui vient un peu, la démoralisation, l'épuisement. Fait que, en lisant des articles avec mon garçon puis tout, passer du temps avec lui, j'ai fini par voir des parallèles. Mais je suis pas un spécialiste en santé mentale, donc je peux pas forcément me diagnostiquer ça, mais... Ça
mais
m'a assez passionné.
Mais tu l'as senti, puis tu l'as senti, je pense qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus facile d'en jaser. Je vais y aller directement avec cette question-là. Comment un homme peut avoir un postpartum s'il n'a pas porté l'enfant? Parce que de ce que je comprends, s'il va textuellement, selon la définition, c'est une question d'hormones. La période du postpartum s'étend littéralement de la fin de l'accouchement aux règles de la femme, tu sais.
Bien, le postpartum, ça fait partie de la famille des dépressions. Donc, tu sais, ce qu'il faut quand même déjà mettre en perspective, c'est oui, il y a une question d'hormones. Mais au-delà de ça aussi, c'est toute une question aussi de changement. Tu sais, avoir un enfant, Jeff, pour le moment, tu vas embarquer là-dessus. Max, t'as un enfant,
ben,
je le sais
si
pas.
Si je le sais pas non plus.
T'es Jeff, pour peut-être embarquer là-dessus. Mais tu sais, quand t'as un enfant, le premier, à un moment donné, ça vient avec une autre conséquence, ça vient avec un autre changement dans ta réalité. Ben ça frappe. Fait que tu sais, oui, il y a un état excessivement hormonal, il y a tout un tas de facteurs par rapport au corps de la femme, mais... C'est aussi les conséquences psychosociales, les conséquences environnementales. C'est un lot de responsabilité, un enfant. Fait que, à un moment donné, oui, si on voit vraiment le diagnostic, dépression postpartum, c'est suite à l'accouchement. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça vient pas forcément du fait d'avoir accouché. Ça vient que l'enfant est arrivé dans votre vie. Ouais.
Tantôt, tu parlais, l'homme ne se sent pas à sa place, puis c'est vrai qu'il y a plusieurs hommes qui se sentent comme ça parce que le bébé naissant, c'est la mère qui allait, donc tu sais, moi, je suis cher à quoi là-dedans? Mais est-ce qu'en tant qu'homme, on est un petit peu trop individualiste aussi, parce que pas être à sa place, c'est veut pas, on perd la place de premier rang qu'on avait face à notre conjointe, là, tu sais, c'est le bébé là, qui prend la place.
Bien, tu vois, ça fait partie justement de quand tu lis un peu plus, je suis tombé sur plusieurs articles, des études qualitatives sur ça. Un des gros sentiments, c'est que l'homme se sent vraiment mis de côté. De un, quand l'enfant naît, tu sais, veut pas à l'accouchement dans une période de grossesse ou tout ça, ben, c'est l'attention beaucoup sur la mère. Mm-hmm. La famille, mais surtout la mère. Suite à ça, l'enfant naît, l'attention de tout l'environnement est sur l'enfant et la mère. Et le père, il se sent volontairement mis de côté, mais c'est aussi, c'est un peu construit comme ça. T'es, c'est sûr que l'enfant va être plus intéressant, puis l'état de santé de la mère suite à l'accouchement va être un peu plus omniprésent au niveau
ça,
de la famille, de l'environnement.
Je pense que c'est normal, là, dans le sens que oui. c'est... Rien enlever à l'homme dans tout ça, je pense que c'est important de le dire, mais il faut se dire que la femme a passé à travers toute qu'une affaire pendant 9 mois au niveau de la déconstruction du corps. C'est tough aussi, le 9 mois qui suit. Ah, oui, c'est totalement, sans dévaloriser évidemment ce que le gars peut sentir. Là.
Mais... Au-delà de ce que Jeff disait de « je me sens plus le point central de ma conjointe », ce qui ne devrait jamais être le cas, by the way, c'est beaucoup plus le principe que l'homme se retrouve que « ben moi, je sens que j'ai plus tant ma place ». Et il passe aussi à une autre étape. Moi, l'homme n'a pas accouché l'enfant. Donc, pour lui, le début du rôle de père, le début du rôle de la parentalité commence quand l'enfant naît. Parce que là, ça devient du concret. Pour la mère, elle sent grandir en lui, elle sent l'enfant prendre sa place, tout ça, elle sent les coups, ça développe cet attachement-là. Pour le père, on va développer un attachement.
C'est moins concret.
Mais ça reste quand même, je ne vais pas dire une idée, parce qu'on regarde de se concevoir que l'enfant est là, mais il n'y a pas un attachement profond. C'est quand l'enfant va naître, là, le papa tombe, comme je l'écrivais un peu dans l'article, comme je disais dans les études, développer ce qu'on appelle plus un sentiment de l'adoption. Il va adopter l'enfant, puis ça tombe vraiment dans un... espèce de pattern-là. Donc, il y a un moment d'adaptation qui se fait.
Est-ce que c'est pour tout, j'allais dire pour tous les hommes, est-ce qu'il y a des types de personnalités qui sont peut-être plus propices à se sentir comme ça? Parce que c'est drôle, je vais juste prendre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu as toujours deux types de réactions quand on parle d'une annonce de grossesse. Mm-hmm. Tu as les papas qui avaient donc bien hâte d'être papa. C'est une mission de vie pour eux autres. Ils veulent une famille, construire
ça, c'est
quelque
moi.
Chose. Puis tu as les gars qui sont toujours comme wow, attends une minute. C'est peut-être Max dans le futur.
On verra.
Non, mais quand il va arriver avec l'enfant surprise.
Oui, c'est ça. En voulant dire comme oh, OK, ça va venir déstabiliser bien des choses. Je ne sais pas si je suis prêt. Il y a des gars qui ne se sentent jamais vraiment prêts. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des types de personnalités qui sont propices à avoir ce genre de dépression-là postnatale?
Je ne peux pas dire que c'est même qu'il y a des types de personnalités selon ce que j'ai sorti des études. Par contre, définitivement, il y a un lien, si la conjointe fait un postpartum, entre 25 et 50 % des papas d'une conjointe ayant un postpartum vont développer un postpartum.
Aussi? Ah, oh, ouais. Hein?
Donc, ça a été ressorti beaucoup dans l'étude. Il va y avoir quand même
c'est quoi les raisons qui expliquent ça, justement, que le père aussi tombe au combat, entre guillemets?
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, vous êtes deux, vous travaillez ensemble pour que la famille va bien, mais... Je sais pas si t'es comme moi, Jeff, mais à un moment donné, passer du temps avec des gens qui sont fatigués, déprimés.
Ouais, ouais. Ça draine.
Ça risque.
Ouais, parce que tu mets ton sac de sauveur, mais là, tu prends plein de choses qui t'appartiennent pas, fait que tu baisses en énergie toi aussi.
Puis, tu sais, c'est con, mais dans une des études qualitatives que je ressortais, c'était vraiment à un moment donné. Qu'est-ce qu'une étude qualitative, en gros, c'est qu'au lieu d'avoir une grande masse, genre 1000 personnes qui répondent à un questionnaire, là, c'est on écoute des gens parler, puis on sort des données de ce qu'ils disent. Ben, dans une des grandes données, c'était. Les papas mentionnent souvent, c'est à un moment donné, je trouve que moi, prendre soin de moi, passe en arrière de tout le monde. T'sais, je m'occupe de ma conjointe parce qu'elle a accouché, effectivement, ça demande un effort physique épouvantable. Je m'occupe de l'enfant, je vais m'occuper même le chien va passer ses besoins, va passer avant de les miens. Donc, rapidement, il se sent volontairement reculé. Oui, le syndrome du sauveur, mais en même temps, ça vient avec les responsabilités d'être parent. Il faut quand même l'accepter.
Totalement. Mais ce qui est particulier dans ce que tu dis, puis ce à quoi j'adhère énormément, on parle beaucoup de santé mentale chez l'homme depuis une couple d'années. Nous, ici, on le met de l'avant.
Vraiment?
Beaucoup. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a... Puis ça vient, mon Dieu, écoute, on recule des millions d'années en arrière. L'homme de Cro-Magnon, si tu veux, mais l'homme a toujours eu un rôle, si on parle de... Je vais parler au niveau animal, OK? Là, vraiment arriéré, là, de pourvoyeur. T'sais, de devoir être la base solide d'une famille, de ramener de quoi ça à table à la maison, de s'assurer que tout fonctionne. Puis ça nous a suivi un peu malgré nous. On évolue énormément à travers ça. Mais souvent, quand tu parles avec les psychologues, les psychiatres, c'est que de nature, il y a quand même toujours cet instinct-là qui est présent. Puis peut-être qu'effectivement, c'est trop à un certain point, tu sais.
Oui, bien, tu vois, mettons, dans ce que je peux ressortir, au-delà des symptômes que l'homme va développer, qui a un risque d'avoir des symptômes, je vais faire une phrase complète avec ça.
Lâche pas, il est encore tout, c'est correct.
Ce qu'il faut prendre, c'est qu'il y a des hommes, effectivement, il n'y a pas de type officiellement qui ont plus de chances que d'autres. C'est sûr que si tu n'as pas d'enfant, il y a moins de chances que tu en aies un, le syndrome.
C'est clairement.
La réalité, c'est les stéréotypes masculins traditionnels que tu viens de nommer, ben souvent vont être mis de l'avant par les hommes parce que je ne veux pas déranger ma conjointe, je veux pas y amener un stress de plus.
Ouais.
Ou je sens que je ne suis pas valide, ou je ne veux pas avoir de l'air faible. Ça, c'est des choses qui vont quand même, que dans les études, ressortaient beaucoup de la perception de l'autre que je suis faible. Parler de mes émotions, ça veut dire que je suis faible. Puis même dans ma dans mon bureau, ça reste quand même quelque chose d'assez présent. Puis là, hors de la dimension du postpartum, beaucoup de gars vont venir dans mon bureau, puis soit c'est la première fois qu'ils parlent à l'intervenant de leur vie, ça donne que je suis un garçon, fait que ça les encourage, ou ils vont vraiment avoir ce sentiment-là de « je sais pas comment parler de mes émotions, puis je sais pas qu'est-ce que ça va de l'air quand je parle de mes émotions. Ouais. »
Comment on peut s'outiller justement pour pas vivre cette période de postpartum-là? T'sais, moi, je t'explique ce que j'avais fait. Quand mes deux enfants sont arrivés au monde, je m'étais dit « faut pas que j'arrête ma course à pied. » Puis je trouvais qu'il y avait plein de moments pour aller le faire parce qu'à un moment donné, la conjointe dort, l'enfant dort. Puis moi, j'étais un tripeux de sport. Fait que j'écoutais le hockey avec mon bébé dans les bras, puis j'expliquais c'était quoi le hockey, puis c'était quoi qui se passait dans la game. Tu sais, c'est des bons trucs, oui. Comment on peut s'outiller justement pour pas en arriver là? Parce que moi, j'ai pas le feeling d'en avoir fait.
Bien, d'abord, c'est la première affaire, ça va être l'investissement avant l'accouchement. Tu sais, faire la chambre ensemble. Tu sais, souvent, il va y avoir ce qu'on appelle du nesting chez les femmes enceintes. Ça veut dire qu'ils vont vraiment construire leur environnement. Sans dire que c'est eux volontairement qui tassent leur conjoint. Mmh. Dans une dynamique de couple quand même, souvent, il y en a une qui va prendre plus le lead que l'autre. Mmh. Et il y en a un qui va se sentir automatiquement tassé. Ben, ça
il y a un instinct naturel chez la mère aussi. Là.
Effectivement, mais tu sais, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'enfants puis qui font ça naturellement aussi, très contrôler l'environnement. Puis on n'est pas une équipe, t'es l'ouvrier puis je suis le gestionnaire. T'sais, ça arrive.
Ah oui, on voit beaucoup ça dans la dynamique de couple dans ton bureau?
Dans une dynamique en général de couple là, qui apprennent à travailler ensemble, souvent, des pertes de désir, je vais faire un parallèle avec mon vrai métier, des pertes de désir, tout ça, c'est qu'à un moment donné, t'as l'impression qu'ils ne travaillent pas en équipe. Il y en a un qui décide puis il y a l'autre qui accomplit. On revient au pourvoyeur. T'as un peu cette réflexion-là. On va en voyage à telle place puis ils n'ont pas comme la place pour communiquer ensemble, pour faire un team-up. Mais c'est le même principe avec la préparation, comme Jeff, tu demandes. Si j'ai un bébé qui s'en vient, il faut quand même que je l'investisse dans le processus. Il faut que je l'investisse dans venir, viens faire la chambre, on va le penser ensemble. Toi, t'aimerais quoi? T'es, pour que le père sente qu'il a son mot à dire. T'es, c'est notre enfant, c'est notre dynamique. Mais tu vois, ça vient embarquer beaucoup avec cette roue-là. Fait que, après ça, je reviens à ce que tu disais, Jeff, une fois que l'enfant est né, ça a donné du temps avec lui. Pas tasser ce qu'on aime, qui on est, pour juste devenir un papa.
Mm-hmm.
Ça, c'est un des facteurs, parce qu'on a l'impression qu'on se perd quand on devient parent. Ça,
mais tu sais, de donner le biberon, j'imagine que c'est quelque chose qui doit aider. Tu sais, de prendre aussi une place dans les tâches quotidiennes.
Ben oui, mes moments préférés.
L'horaire. C'est moi qui me lève cette nuit, OK? Tu sais, de trouver une espèce d'équilibre aussi.
Ben,
là.
C'est sûr que s'investir dans la vie de l'enfant, c'est se donner ces responsabilités-là, c'est prendre sa place. Des fois, comme je dis, il y a des gens qui ne vont pas laisser ça. Des fois, il y a des gens qui aussi ont des apports, ils ont des enfants, mais ils ont des enjeux de confiance aussi. Fait que je te fais pas confiance à faire l'épicerie, je te laisserai pas mon enfant la nuit. Tu comprends? Ouais, c'est des dynamiques de couple, il y en a aucune de toutes sortes.
J'espère que tu fais pas d'enfant dans ce temps-là. Il y a une distance, moi, qui me
c'est
dit...
C'est pas de même, ça marche. Je suis désolé, Audrey.
Écoute, la dernière question que j'ai, puis c'est comme une...
Mais je veux-tu finir rapidement pour Jeff? Tu avais faire des activités avec l'enfant, s'investir beaucoup, faire partager un peu ses passions. Ça va t'aider beaucoup plus. On parle de l'allaitement, de biberon où ma conjointe allaitait, mais la nuit, c'est quand même moi qui me levais pour amener l'enfant à ma conjointe. Mm-hmm. Je prenais mon moment quand même de m'impliquer, de me sentir important.
Moi, je me suis toujours réveillé avec mes boys. Fait que c'était une façon de bien starter la journée.
Les matins, je
leur jasais, puis tout le kit, c'est le fun.
Je suis.
Est-ce qu'on est un peu trop à l'écoute de nos sentiments, selon toi? C'est une drôle de question, mais tu es quand même dans ce domaine-là où il y a beaucoup de consultations que tu fais, puis on est dans cette ère-là où on met beaucoup de l'avant le fait qu'il faut se rendre vulnérable. Ça va-tu se retourner contre nous à un certain moment?
Se rendre vulnérable, c'est important, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une différence entre se rendre vulnérable et se croire. Tu sais, à un moment donné, moi, souvent, là, dans mon bureau, la vulnérabilité, c'est super important pour qu'un couple fonctionne, pour que deux humains soient capables de bien communiquer ensemble. Mais quand à un moment donné, je me prends, comment je te dirais ça, je prends tout trop sérieux. Bien, tout
l'intimidation,
Non, pas l'intimidation que je vais prendre, juste tout au sérieux. Ce que je viens de dire, c'est super important. Ça devient important pour moi, alors que c'est pas une banalité. S'il y a des choses qui sont importantes, mais à un moment donné, je peux relativiser. Ça me fâche, je peux passer au travers. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens ont plus de fun. C'est trop sensible, trop sérieux, alors que la réalité, c'est qu'il faut que tu aies des déconner, de rire de toi, d'en prendre puis d'en laisser.
Choisir tes combats à travers
ça. Choisir tes combats, mais comprendre aussi. Ça m'affecte pour une raison. puis je vais aller me battre pour ça. Mais il y a des choses, ça m'affecte, puis ça me garde juste à moi, parce que mon passé, mes blessures, mes affaires. Il faut être vulnérable, il faut s'ouvrir à l'autre. Mais ça veut pas, être vulnérable, ça ne veut pas dire être triste et déprimé et se battre pour des affaires.
Se victimiser.
C'est ça, ça ne veut pas dire ça, être vulnérable.
Charles Léaulier, qui est sexologue, intervenant en dépendance aussi, qui va nous jaser pour l'été. Charles, tu restes là parce que tu nous fais une toune au retour de la pause. On revient dans quelques instants. Vous êtes à Boulevard Against le matin.
On s'arrête 2-3 minutes.